Cube Radio.
Salut tout le monde. Vanessa Destinée à la barre des effrontés pour une troisième journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Si vous n'êtes pas sorti dehors, il faut corriger ça maintenant parce que le beau temps auquel on a eu le droit jusqu'à présent achève. L'hiver, on le sait, là, il n'est pas réellement terminé. Faut pas l'oublier. Et on annonce là, des petites tempêtes là, vers le milieu de la semaine. Évidemment, je ne passerai pas deux heures à vous parler de météo. Ne vous inquiétez pas. On a une très, très belle émission aujourd'hui. On va parler de sujets un peu plus lourds, comme la violence, par exemple, faite aux femmes. On va parler de corruption aussi du côté d'Hydro-Québec et d'accessibilité dans le réseau de transport à Montréal. Mais on va également parler de transformation numérique et d'outils pour nos jeunes. Élise Jeté viendra faire un tour avec sa chronique culturelle, de même que Frédéric Mockel qui va nous parler de podcasts de type True Crime. Mais avant de commencer, on va faire un petit tour d'horizon des actualités avec Alexandre Moranville-Ouellette, chroniqueur et recherchiste à Cube Radio. Salut Alex!
Salut Vanessa!
Ça va bien?
Toujours en forme, surtout avec le beau temps, tu le dis, là, c'est bientôt le moment des terrasses. Ça s'en vient. On est en février, mais ça...
Ben moi, j'ai déjà commencé à boire, là, pas sur une terrasse nécessairement. Juste à boire.
Ah! C'est bon, c'est déjà bon.
Je me prépare, je me réchauffe.
Le mois sans alcool est presque fini.
Oui, moi, il n'y a jamais commencé pour moi, c'est ça l'affaire.
Je comprends ça.
Écoute, Alex, on va commencer avec la nouvelle qui fait jaser. On sait maintenant ce qui attend Harvey Weinstein. En fait, il y a eu un verdict dans le procès qui l'oppose là, à des dizaines de femmes qui allèguent avoir été agressées sexuellement par cet homme tout puissant au sein d'Hollywood. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus?
Certainement, c'est le producteur des là, puis l'emblème, si on veut, l'élément déclencheur du mouvement hashtag MeToo, Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable de 2 des 5 chefs d'accusation, soit agression sexuelle et viol sur lui. Il va éviter ainsi quand même une condamnation des accusations plus graves, mais c'est tout de même une grande victoire pour le mouvement hashtag MeToo. Il est passible maintenant là, de 25 ans de prison au maximum, mais il risquera pas la perpétuité parce que le jury l'a disculpé de l'agression aggravante, de comportement prédateur, plutôt de circonstances aggravantes. Ça aurait pu lui valoir la prison à vie. Il a été relaxé donc du chef de viol un peu plus grave qui était lié à Jessica Mann, mais surtout ce viol-là aurait donné la circonstance aggravante de comportement prédateur. Tout de même, là, la décision à l'unanimité a pris 5 jours de délibération.
C'est quand même assez rapide, considérant là, la charge et le poids qui pesait sur les épaules du jury. On le sait, là, il y a eu une impasse, je pense, pendant 3 jours. Ça a pris du temps quand même pour qu'ils puissent s'entendre là, sur 2 des 3 facteurs, quelque chose comme ça.
Exactement, puis c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Donc, c'est les 2 chefs, faut le dire, les moins graves des 5 qui ont été retenus. Mais comme je dis, tout de même passible de 25 de prison pour cet homme-là qui a déjà 67 ans.
Ça envoie quand même un message fort parce que, bon, ça pourrait façonner la nouvelle façon de considérer les procès pour agression sexuelle.
Mais c'est la première reconnaissance de culpabilité littéralement dans une affaire post-MeToo. Il y avait Bill Cosby, l'acteur, qui avait été condamné également, mais c'était des poursuites qui s'étaient entamées en 2015 quand on parle du mouvement MeToo.
Il a précédé
ça
le
date,
mouvement.
Ouais. Ça date de octobre 2017 plutôt, donc c'est la première véritable condamnation. Puis c'est un peu dans la même logique que c'est l'élément déclencheur, si on veut. Là, près de 80 femmes qui avaient allégué Harvey Weinstein d'harcèlement, d'agression sexuelle, de viol, de comportement prédateur. C'est seulement 3 femmes qui ont été entendues lors du procès.
Malheureusement, et qu'est-ce qui explique qu'on a entendu si peu de femmes? C'est à cause du délai de prescription notamment. Ouais. Donc, quand les faits, ça remonte à trop loin, on ne peut plus entendre de témoignages. Le fait aussi que certaines femmes, il manquait de preuves, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui.
Mais non, c'est un peu dans la même logique si on veut que le procès d'Éric Salvaille. On a entendu toutes sortes d'allégations. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a des rumeurs, il y avait des histoires dans son gym, entre autres, il y avait toutes sortes d'histoires qui étaient sorties, mais au
et même
à son
des
procès,
gens du milieu, en fait, des gens qui l'ont côtoyé, ont dit, des vedettes, là, ont dit qu'elles ont été témoins de comportements déplacés, parfois même lors de réunions d'équipe, donc c'est pas...
Il y a eu beaucoup de choses entendues, mais il reste que c'est seulement Donald Duguay, donc qui a témoigné lors du procès qui s'est tenu la semaine dernière, dont on attend encore là, évidemment la délibération et tout, mais...
Des parallèles à faire ici avec toute cette histoire, effectivement. On va continuer avec le chemin de fer, donc un petit une mise à jour sur ce qui se passe là au niveau du blocus ferroviaire qui continue de paralyser les lignes un peu partout au pays. Oui, ouais, ben, c'est démantelé. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Il y a eu certains blocus, entre autres celui de Saint-Lambert, près d'ici, qui a été démantelé tant que vendredi là, en soirée. Les policiers là, qui ont resserré un étau autour de ce blocus-là, qui ont discuté longuement avec les manifestants qui étaient là, qui ont décidé de partir finalement sans arrestation, sans violence, sans qu'il soit nécessaire d'usage de force pour les passer de là. Mais c'est pas fini. Là, ce matin, il y a des manifestants qui ont stoppé la circulation une dizaine de minutes près du pont Mercier. Des véhicules qui étaient affublés de drapeaux là, aux couleurs des Premières Nations, qui se sont immobilisés dans un des accès qui menait au pont en direction de Montréal. Mm-hmm. Ensuite, ils ont repris la route en klaxonnant lentement. Il y avait d'autres manifestants qui circulaient à pied près du pont. Maintenant, on dit que ce serait des routes près dans les environs d'Oka qui seraient bloquées, entre autres la route 344. L'hélicoptère TVA, d'ailleurs, est en route pour aller prendre des images de tout ça. C'est le 19e jour
J'ai
de blocus.
C'est
le 19e jour de blocus. C'est, d'ailleurs, c'est en Ontario qu'il y a eu une intervention ce matin, l'une des premières véritables interventions pour mettre fin au blocus.
Musclé ou non?
Il y a eu des arrestations. Il n'y a pas eu l'air d'avoir trop de résistance des protestataires par rapport à leur arrestation, mais il y avait un ultimatum qui avait été lancé hier par la police provinciale de l'Ontario pour inciter les manifestants à lever leurs barricades. Il y avait jusqu'à minuit hier pour le faire, mais ils ont décidé de braver ces interdictions-là parce qu'ils disaient, eux, que les barricades obstruaient pas physiquement les voies. Ils disaient qu'ils se trouvaient sur le territoire établi en 1793 par un traité, qu'ils avaient donc le droit. Quoi qu'il en soit, il y a des manifestants qui ont été menottés. Aujourd'hui, des dizaines de policiers là, qui ont tassé ce blocage-là qui avait lieu à Belleville, en Ontario.
D'accord. Et dis-moi, du côté du fédéral, est-ce qu'on a plus de nouvelles là, du côté du gouvernement Trudeau par rapport à une sortie de crise avec les Autochtones? Qu'est-ce qu'on doit surveiller?
Toujours encore, évidemment, Justin Trudeau qui a demandé, là, on s'en souviendra, vendredi, à ce que les barricades soient levées.
Ouais.
On a parlé d'usage de la force, mais là, il y en a toujours, comme je dis, qui sont en cours. Il y en a toujours à Kanawake, entre autres, il y a encore des Mohawks qui bloquent les rails là-bas. La ligne du Mont-Saint-Hilaire, par contre, a pu reprendre, elle. La ligne de Candiac ne peut pas, entre autres, à cause de ce blocage-là, à Kanawake. Mais celle là, qui a été reprise, là, d'ailleurs, là, les voies du CN à Tien-Dinaga, celle dont on parlait un peu plus tôt en Ontario, c'était celle qui était le plus dommageable pour l'économie canadienne.
Okay.
C'est celle qui se rend du sud de l'Ontario au Québec, au maritime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle, mais c'est pas...
Pour les gens de l'industrie,
c'est pas terminé. Faut dire que la GRC a obtempéré vendredi dernier à une des principales demandes. Se sont retirés du territoire des Wet'suwet'en. Il semblerait que ça ne satisfasse pas l'ensemble des manifestants. Bref, c'est une situation qui se poursuit. 19 jours de blocus un peu partout au pays.
C'est évidemment un dossier qu'on n'aura pas le choix de continuer à suivre. En attendant, il y a autre chose aussi qui retient notre attention. Un autre dossier qui est inévitable parce qu'il y a eu un vent de panique au cours de la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'une femme avait utilisé des services de Air Canada pour se déplacer au pays. Une femme qui aurait testé positif pour le coronavirus, on a cru comprendre.
Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. Puis cette nouvelle-là vient s'ajouter à celle aujourd'hui. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé le monde entier à se préparer à une éventuelle pandémie. Donc, message un tantinet inquiétant. Oui, bien, lui qualifie en tout cas la situation de très préoccupante.
Mais toi, c'est une pandémie. Je veux dire, le Zika, c'était une pandémie. Il n'y a pas personne là, qui est né là, avec un...
Oui, mais donc, ça réagit, cette nouvelle déclaration-là, à l'augmentation là, assez soudaine, explosive. C'est des nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran, entre autres, qui inquiètent. Ça a reculé en Chine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fluctue depuis un bout. Là, c'est 77 000 personnes, le chef officiel, qui sont infectées. L'OMS qui s'est rendu à Wuhan là, pour une première fois. Ils ont dit que là, ça descend graduellement le nombre de nouveaux cas. Ils ont félicité la Chine de leurs mesures drastiques aussi de quarantaine. Là, s'entend qu'il n'y a pas grand régime sur la planète qui ont la force et les moyens nécessaires pour mettre en quarantaine des dizaines de millions de leurs propres citoyens.
Ils ont l'habitude de mettre des gens dans des centres de détention contre leur gré, donc je pense qu'il faut saluer. Il y a une utilité à tout ça, finalement.
C'est construire des hôpitaux rapidement et tout, là, c'est certain que ça peut être une force de certains régimes autoritaires. Là, on peut le saluer.
Je parle, entre autres, du camp d'internement pour les Ouïghours, où est-ce que, justement, le risque de propagation propagation pardon, de la maladie fait craindre le pire aux autorités.
Les chiffres sortiront pas de là. Hein?
Jamais. On n'aura jamais d'informations sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus.
On risque pas d'être éclairé du tout.
Dans ces camps de détention-là.
Oh, oui, mais en Italie, là, je parlais de la situation qui a augmenté. Il y a déjà 5 morts en Italie. Ça devient le pays le plus touché de l'Europe tout de même. Ils ont mis un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes dans le nord de l'Italie pour éviter que ça se rende dans le reste du continent.
Oui, j'ai une amie qui est à Venise pour le carnaval de Venise qui a lieu en ce moment. Et évidemment, ça attire énormément de touristes, n'est-ce pas? Eh bien, les festivités ont été interrompues parce que ça fait beaucoup de personnes étrangères dans un même lieu. Il y a des risques. Ouais. On sent un peu un vent de panique. Puis je pense qu'ils ne veulent lésiner sur aucun moyen.
Ouais,
donc, effectivement,
il y a 4 jours, il y avait 6 cas. Il y avait 6 cas déclarés en Italie, puis en 4 jours, c'est passé à 219 cas. Donc, c'est inquiétant. Du côté de l'Iran aussi, là, il y a 12 personnes qui sont mortes, mais c'est que seulement 64 condamnations. En Chine, on parle, dans l'ensemble de la Chine, contamination,
oui,
pardonnez-moi. En Chine, on parle d'un taux de mortalité qui est de 0,7% globalement, entre 2 et 4% à Wuhan. Là.
Oui, donc, parce que c'est ce qu'on oublie. Tu peux être contaminé, mais si tu ne vas pas nécessairement mourir si tu es contaminé.
Meurent est assez faible.
Ben oui.
Mais en Iran, je dis c'est 64 cas. Il y a eu 12 décès déjà.
Là,
c'est
un
taux de mortalité de presque 1 sur 5. Donc, c'est ce qui inquiète beaucoup en Iran. Est-ce qu'on parle de cas plus virulents, d'une mutation? C'est pas confirmé encore.
Ou peut-être simplement d'un manque de mesures sanitaires mises de l'avant parce qu'on a cru que la menace ne nous atteindrait pas.
Également
donc
possible.
Donc, ils ont, c'est ça, pas réagi nécessairement aussi rapidement. Et là, Alex, on se fait plaisir, toi et moi. On est, pour ceux qui suivent les têtes enflées, toi et moi, on est deux nerds, hein? Puis on aime ça parler d'affaires nerds ensemble. Et on n'a pas eu la chance jusqu'à présent parce que l'actualité, mon Dieu, nous tenait très occupés. Mais ça veut pas dire que ce dont on va vous parler en ce moment n'a pas de lien avec l'actualité. C'est juste que on va ailleurs.
Oui, puis pour nos plus fidèles auditeurs, moi, je fais une chronique dans l'émission de Richard Martineau tous les jeudis matins sur les théories du complot. C'est mon dada dans la vie, là. Ça me fascine. Et là, un homme que je connaissais bien, pour l'avoir suivi sur toutes sortes de plateformes. Mad Mike, Michael Hughes, 64 ans, cascadeur de profession, qui est décédé en fin de semaine. Une véritable tragédie, j'ose le dire.
Je veux pas rire, mais c'est parce que c'est tellement la mission. Reviens, est-ce que tu peux nous expliquer quel plan avait cet homme-là?
Cascadeur de profession, mais également astronaute amateur, hein, cet Américain-là, qui a construit dans son jardin une fusée propulsée à la vapeur avec un de ses amis.
Une fusée faite maison.
Ouais, vous l'avez sûrement déjà vu, là, parce qu'en mars dernier, il avait fait un essai qui avait été super remarqué. C'était construit une autre fusée. Il était monté jusqu'à 570 mètres d'altitude. Vous vous dites probablement, c'est fabuleux, c'est fantastique. Mm-hmm. Une fusée maison. Quel astronaute.
Ne faites
génial.
Pas ça à la maison. Je veux juste le préciser quand même.
Ne le faites pas. Ouais. Mais reste que, c'est le motif. Cette fusée, c'est le motif.
Mais le pourquoi de la chose?
Il voulait monter à 1500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde, mais bien faite, dans ses propres mots, en forme de frisbee. J'ai déjà parlé longuement de la Terre plate. Je suis dans plusieurs groupes Facebook de
Flat Earthists.
À des fins de recherche, bien évidemment, je n'y crois pas. Rassurez-vous, chers auditrices, auditeurs. Mais ce sont des personnes assez phénoménales. J'ai déjà entretenu une petite correspondance avec un Irlandais qui se disait géographe amateur puis qui m'écrivait en caps lock.
Géographe amateur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, je suis une géographe amatrice. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, mais lui, c'est qu'il y a la vérité. Puis toi, tu ne crois pas.
N'importe qui peut juste se proclamer géographe.
Juste
n'importe quel métier, mais ajouter amateur.
En anglais, sur les forums que je fréquente, il t'appellerait une globetard.
Comme parce que je crois que la
Terre est en forme
d'accord,
de globe.
C'est
totalement stupide. Écoute, il y a tellement de choses fabuleuses à dire au sujet de cette fameuse théorie du complot de la Terre plate.
Et mais là, quoi qu'il malheureusement, en soit, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, semble-t-il. Le doute persiste.
Mais sa fusée qui avait coûté 18 000 $ américains à construire en tout s'est envolée dans les airs et finalement, là,
retombée.
Serait écrasée. Et malheureusement...
As-tu vu la vidéo?
Oui, je l'ai vu rapidement.
C'est une tristesse, hein?
C'est
pas le fun à regarder, honnêtement. Là,
non.
Puis
on souhaite ça à personne, c'est certain. C'est rigolo, mais dommage que cet homme-là soit mort dans ce genre de circonstances-là.
C'est filmé, c'est entouré de gens, si tu voulais l'encourager.
Ouais.
Moi, j'ai ouï dire, il y a beaucoup de théories du complot par rapport à ça. J'ai ouï dire, entre autres, qu'il avait fait ça pour un stunt, que lui-même ne croyait pas nécessairement que la Terre était plate.
Lui, c'est un cascadeur de profession à la base. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres motifs. D'ailleurs, il y avait eu eu un record Guinness en 2002. Hein, il avait établi le record du plus long saut en limousine, 31 mètres.
Qu'est-ce qu'un saut en limousine?
Le plus long saut au monde en limousine. Tu sais bien que le livre des records Guinness, c'est truffé de...
Qu'est-ce que la limousine fait? Comment tu sautes?
C'est un jump.
Un saut.
Regarde, on va faire du franglais de milléniaux.
OK.
Juste la traduction. Non, mais un gros saut à ski, là.
Ce monsieur-là avait beaucoup trop de temps. Il avait trop de temps.
Faut croire qu'il est mort en faisant quelque chose qu'il aimait et selon ses convictions. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà vu commencer à voir apparaître des petites notifications sur ces groupes-là disant que ce serait la NASA qui aurait saboté son engin.
Oui, hein,
pour éviter qu'on découvre la vérité.
Les Illuminati, sans doute.
Enfin.
Et les reptiliens.
Ça se pourrait également. Vais enquêter là-dessus, la réponse prochainement.
Oui, merci beaucoup, Alexandre Moranville-Ouellet. C'était parfait comme tour d'horizon des actualités. Restez avec nous après la pause. On parle de violence conjugale. On va parler un peu d'intervention auprès des hommes sur ce sujet-là. Donc, restez des nôtres.
De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.